Radio Okapi.
Le journal, Pascal Masirica.
Okapi.
Minutes d'actualité avec en titre, la CENI a publié hier soir à Kinshasa le chronogramme réaménagé des élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Son président, Ngoï Mulunda, vous l'entendrez tout à l'heure, dit porté par la volonté d'améliorer ses opérations par rapport au dernier scrutin. Plus des millions de finalistes attendus aujourd'hui au test de fin d'études primaires en RDC, opportunité leur offerte de s'armer à amorcer le secondaire. Pour la tutelle, c'est une auto-évaluation, dira le ministre Makeur Mwangu. En Ituri, des importateurs émigrent vers l'Ouganda et le Sud-Soudan. Ils ne ménagent pas leurs critiques contre la montée des frais douaniers leur imposés au pays. Pour la DGDA, ces commerçants fuient tout simplement la rigueur de la législation en vigueur. Bonjour à tous. En publication hier soir à Kinshasa du calendrier réaménagé pour les élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Ce chronogramme prévoit le premier scrutin en février 2013 avec l'élection directe des députés provinciaux suivie de l'élection indirecte des maires de ville. Ce sera en mars 2014. À l'occasion, le président de la CENI a rassuré l'opinion quant à la crédibilité de la suite du processus avec ce nouveau calendrier qui, selon Daniel Ngoï Mulunda, tient compte notamment des exigences techniques et opérationnelles. Plus d'explications avec Michel Kifinangoy.
Le calendrier réaménagé est rendu public par le bureau de la CENI étant le processus jusqu'en 2014 au lieu de 2013 comme préalablement prévu. Mathieu Pitard, rapporteur de la CENI, donne ici les grandes dates de ce calendrier.
Le 25 février 2013, jour des scrutins, élection provinciale. Le 5 juin 2013, élection des sénateurs. Le 22 juin, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le 30 mars 2014, élection des chefs de secteur et des bourgmestres. Et enfin, le 31 mars, élection des maires.
Dans le souci de crédibiliser la suite du processus électoral, le président de la CENI s'engage à mettre en application toutes les recommandations issues de l'atelier d'évaluation d'avril dernier. Daniel Ngoï Mulunda.
Dans cette perspective de crédibiliser davantage l'organisation des élections, le bureau ainsi que toutes les structures techniques de la CENI s'employeront désormais à fiabiliser et stabiliser le fichier électoral en y intégrant les OMI. Actualiser la cartographie des bureaux de vote en partenariat avec tous les acteurs de terrain.
Le président de la CENI s'est dit convaincu qu'en observant ces recommandations, la suite du processus subira des améliorations par rapport à tout ce qui a été reproché au processus passé.
Le ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie et son collègue de PTT ont été interpellés hier par la plénière de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Le premier, Raymond Tshibandantunga Mulongo, devait fournir à l'occasion des explications sur l'organisation prochaine du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Une question du député national Germain Kambinga. Le second, Trifon Kinke Mulumba, est venu lui expliquer pourquoi la République démocratique du Congo n'est pas connectée jusqu'à ce jour à la fibre optique. Reportage signé Jacques-Yves Molima.
Selon Germain Kambinga, l'auteur de la question adressée au ministre des Affaires étrangères, ce dernier devrait étayer les intérêts pratiques que peuvent attendre le peuple congolais de ce sommet. En plus, le ministre devrait également éclairer l'opinion quant à la participation du président français à ce sommet. Pour Germain Kambinga, cette question a toute son importance.
Nous avons des problématiques congolaises à exposer, les questions liées à la guerre à l'Est et la présence de la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, serait une occasion précise pour la République de mettre en lumière ces problèmes-là.
En ce qui concerne la non-connexion de la RDC à la fibre optique, les députés Mary Okundia voulu savoir ce qui a bloqué cette connexion jusqu'à ce jour. Pourtant, des sommes colossales ont été débloquées. Et Mary Okundia.
Il y a des sommes colossales qui ont été déboursées, il y a des prêts qui ont été faits auprès des banques étrangères et congolaises, mais malgré ces sommes colossales, le point d'atterrage n'est pas encore prêt.
Ces deux questions ont fait l'objet d'un débat à l'hémicycle et les deux membres du gouvernement devront répondre à la prochaine plénière à toutes les préoccupations des députés nationaux.
C'est aujourd'hui jeudi qu'aura lieu le test national de fin d'études primaires en RDC. Plus des millions d'élèves de 6e année primaire sont concernés. Le ministre de l'EPSP assure que tout est fin prêt pour la tenue de cette évaluation nationale. Il ajoute que rien, à son avis, n'empêchera son bon déroulement, y compris dans les territoires touchés par des conflits armés. Makeur Mwangu Famba est au micro de Donamadi Mbambaya.
Je confirme la passation des tests nationaux de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. C'est jeudi 7 juin et toutes les dispositions ont été prises. Un peu partout, nous avons même dépêché nos délégués à travers la République. Le gouvernement de la République a envoyé les gens à travers la République pour la passation de ces tests. Donc nous sommes fin prêts pour attendre les élèves de la 6e primaire. Donc c'est un peu un test qui doit servir les ministères de faire une auto-évaluation. Ça permet aussi à l'enfant de voir comment il peut aborder les cycles secondaires. Ce qui se passe par exemple dans la zone Nord Kivu et Sud Kivu avec les conflits armés que nous avons là-bas, nous avons pris les dispositions avec les ACR pour que nos collaborateurs suivent les enfants là où ils sont pour qu'ils puissent passer les tests dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, le ministre Makeur Mwangoufamba confirme pour le 2 juillet prochain la fin de l'année scolaire. Il ajoute par ailleurs que tout est fin prêt pour la tenue de la session ordinaire de l'examen d'État. Le ministre, les PSP et l'invité de Radio Okapi à suivre tout à l'heure à 7h33, heure quinoise. Santé en RDC maintenant. Coup d'envoi ce jeudi dans tout le pays de la deuxième session de la vaccination contre la poliomyélite pour 2012. Cette vaccination qui concerne les enfants de 0 à 5 ans ira jusqu'au samedi du prochain. Toutefois, à Mitwaba, mais aussi à Mufanga Sampwe, dans le Katanga, c'est toute la population, enfants et adultes confondus, qui seront vaccinés. Il est aussi prévu aujourd'hui la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au mébendazole pour les enfants. Dans l'actualité, il y a aussi également l'économie. Pour parler de l'Ituri précisément, le territoire d'Arou enregistre une forte baisse d'activité commerciale depuis le début de cette année. Beaucoup d'importateurs de marchandises ont carrément décidé d'aller s'installer en Ouganda et au Sud-Soudan. Ils disent fuir les taux élevés de frais douaniers comparativement à celui auquel ils sont soumis dans le pays voisin. Les autorités locales de la DGDA, qui rejettent en bloc ces raisons, indiquent plutôt que ces commerçants évitent de se conformer mais à l'application rigoureuse de la législation douanière en RDC. Pour d'autres précisions, rejoignons sur place à Bounia Jean-Paul Basila.
Au poste douanier d'Arou, Sol Kibal Gold Mining, une compagnie qui construit des nouvelles mines d'or en district du Haut-Ouélé, y dédouane régulièrement de marchandises en séjour. Des importateurs congolais ne sont plus visibles, certains vont carrément dédouaner leurs marchandises importées de pays asiatiques au Soudan du Sud, d'autres en Ouganda. Robert Amassi, un homme d'affaires d'Arou, explique pourquoi.
Au niveau de l'Ouganda, même le Soudan, les déclarations de toutes les marchandises sont à la baisse. Nous ne pouvons qu'avoir des bénéfices pour bien travailler. Nos élites du peuple doivent revoir nos matières douanières pour que nos opérateurs économiques puissent revenir.
Constant Boubolenga, président de la FECAN Ituri, confirme ses motifs en évoquant cette illustration.
Il y a un conteneur qui amène moto, Yamaha. Il vient au Soudan, on paye 8 000 $. Et chez nous, il parle de 22 000 $. Et là, vous comprenez déjà les commerçants qui cherchent à réaliser les bénéfices là où il peut aller.
À la sous-direction de la DGD à Bounia, on indique que la plupart d'importateurs qui ont déserté les postes douaniers d'Arou sont ceux qui ont du mal à se conformer au principe de transparence que leur exige l'entreprise Bivac, notamment la production des bonnes factures d'achat de marchandises à la source. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Et puis, ainsi que vous le savez déjà, le gouvernement congolais a décidé de mettre sur le marché le 2 juillet prochain les nouveaux billets de francs congolais à valeur faciale élevée, soit 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. Comment la population a-t-elle accueilli cette décision de l'autorité? En tout cas, beaucoup de Congolais craignent que ces billets n'entraînent une flambée de prix de biens et services à travers le pays. On les écoute au micro de Trudon Mukanyamole.
Du fait qu'il y ait le billet de 5 000 francs et 10 000 francs, bon, admettons qu'il y aura de bons résultats.
La sortie des gros billets comme 1 000 francs et 5 000 francs et 10 000 francs, ça va nous rendre encore la vie difficile. Ça va augmenter les prix de la nourriture, ça va augmenter les prix des transports, ça va augmenter les différents prix de tous les produits vitaux. Toute cette conséquence va retomber sur nous, le petit peuple.
Si on fait sortir encore un nouveau billet, le Congo sera par terre. Il doit quand même réfléchir à ce sujet-là.
Concernant le nouveau billet des 1000 francs, 5000 et 10 000 francs, moi je pense que c'est pas ça la solution, parce que ça va entraîner l'inflation sur les taux d'échange.
Moi je trouve que c'est pas vraiment opportun de mettre des billets de grandes coupures, de 5 000 francs, de 10 000 francs, ça fait monter les prix au marché. Nous avons des opérateurs économiques qui attendent que ça. Là, ils vont profiter de faire hausser les prix sur le marché.
le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, que vous avez suivi hier sur nos antennes, a promis que toutes les dispositions sont prises pour que les nouveaux billets des banques n'amènent pas l'inflation. Terminons au Kassai-Oriental, où la synergie de lutte contre les violences sexuelles note un accroissement des cas de violences dans la province pour les trois derniers mois. Elle a enregistré une soixantaine de cas, dont 27 notifiés à Mbujimayi pour le seul mois de mai dernier. Constat fait mardi après-midi lors de la réunion hebdomadaire de cette synergie, dont les membres recommandent la conscientisation de la population sur les méfaits de ce fléau. Madame Thérèse Chisaka, présidente de cette synergie, est au micro de François Tibenji.
Au mois de mars, nous avons eu 17 cas. Au mois d'avril, 19. Et au mois de mai, ici, nous sommes arrivés à 26. C'est pour vous dire que la situation est toujours croissante. Un autre constat que nous avons fait, que les violences sexuelles au Kassai-Oriental, c'est pas dit aux effets de la guerre, ce sont des faits qui viennent des situations culturelles. On voit que la femme, c'est un sexe faible, on peut la maltraiter autant qu'on veut. Les auteurs, pour le moment, il n'y a plus les hommes en uniforme comme dans les temps. Maintenant, ce sont surtout les civils qui violent des voisins, des cousins. Suite à la promiscuité, ce sont des violences sexuelles qui se font dans les ménages. La grande stratégie, c'est la sensibilisation. Que la population puisse prendre en compte que violer un enfant d'autrui, c'est un mauvais comportement qui ne peut pas être admis dans la communauté.
Voilà comment s'achève cette édition. Merci d'avoir écouté. Tina Salama, c'est à vous. Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.